RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Tous nous avons des livres en main, livres de poche, beaux livres, éditions précieuses, livres d'hier et d'aujourd'hui, mais que savons-nous vraiment de l'histoire de cet objet prodigieux, fruit de l'esprit et de la rencontre d'innombrables savoir-faire ? Le livre s'offre pour la réflexion autant que pour la rêverie. Il est jugé tantôt chef-d'œuvre, tantôt bien quelconque, couvert d'éloges ou de critiques. Il peut être contrôlé et censuré. Il s'acquiert à grands frais ou pour presque rien. Il est quelquefois volé, souvent collectionné, classé, donné, offert, mais aussi pilonné. C'est cette histoire longue et complexe que, avec nos trois invités, nous allons tenter de retracer. Nos trois invités sont tous spécialistes de la merveilleuse histoire du livre. Ils vont nous relater, au prisme des connaissances les plus récentes, cette riche et inédite histoire. Jean-Yves Mollier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'édition du livre et de la lecture et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Au téléphone avec nous depuis Strasbourg, Olivier Deloignon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Université de Strasbourg et vous enseignez l'histoire de la typographie du livre à la Haute École des Arts du Rhin. Et nous verrons dans quelques instants à quel point cette région de l'Europe a été à l'origine du prodigieux développement de l'imprimerie. Et puis Jean-Marc Châtelain est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes conservateur des bibliothèques. Et vous êtes porteur d'un titre absolument magnifique. Vous êtes directeur de la réserve des livres rares à la Bibliothèque nationale de France. Vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit plus précisément. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire du livre et de la littérature au XVIIe siècle. Alors je dois dire, messieurs, que votre ouvrage collectif est absolument superbe. Il s'intitule « D'encre et de papier, une histoire du livre imprimé ». Il est publié conjointement aux éditions de l'Imprimerie nationale et aux éditions Actes Sud. Je le redirai tout à l'heure en conclusion de l'émission, mais c'est assurément un très beau livre à offrir à Noël. Quiconque se passionne pour les livres d'une manière ou d'une autre y trouvera son bonheur. Voilà, nous allons ouvrir cette conversation sur le thème « D'encre et de papier, la fabuleuse histoire des livres ».
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Notre thème aujourd'hui, donc, d'encre et de papier, la fabuleuse histoire des livres. Nous sommes en compagnie de trois éminents spécialistes de l'histoire du livre et de la typographie. Et nous allons commencer par la première partie de cette histoire du livre entre le 8e et le 16e siècle. C'est la première partie de ce livre absolument merveilleux intitulé « D'encre et de papier, une histoire du livre imprimé » aux éditions de l'Imprimerie nationale et aux éditions Actes Sud. Nous sommes en compagnie pour aborder cette toute première partie de Olivier Deloignon. Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, donc vous êtes l'auteur de la première partie de ce livre collectif intitulé « Le livre expérimenté » et vous retracez toute cette odyssée depuis le 8e jusqu'au 16e siècle. Ce qui frappe en vous lisant, Olivier Deloignon, c'est ce très long prélude à l'histoire du livre et à l'histoire de l'invention de l'imprimerie, ce très long prélude en Extrême-Orient. C'est-à-dire que, contrairement à l'image d'Épinal qu'on peut avoir en tête, eh bien, l'imprimerie n'a pas été inventée sur les bords du Rhin, elle a été inventée en Extrême-Orient, avec tout d'abord en Chine les livres de pierre. De quoi s'agissait-il, Olivier Deloignon ?
Alors oui, absolument. Les livres de pierre sont en fait tout simplement des stèles qui sont gravées avec du texte et qu'on ancrait et sur lesquelles on appliquait tout simplement des feuilles qui avaient été au préalablement humidifiées pour en prendre l'empreinte et pour avoir un texte qui soit tout à fait unifié. Donc c'est dans la culture chinoise, vous avez cette volonté d'avoir un texte extrêmement précis, sans faute, et donc c'était un excellent moyen. A fortiori, il y avait une autre vertu à ce type de livre de pierre, c'est que ça ne brûle pas quand vous avez un incendie.
Si je vous entends bien, Olivier Deloignon, ces livres-là faisaient l'objet d'une diffusion, mais sur quel support étaient-ils imprimés ?
Alors, ils étaient imprimés sur du papier, qui est également une invention chinoise. On estime aujourd'hui que le papier apparaît entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il va se... Alors, à la fois, c'est un trésor. Donc, on essaie de ne pas diffuser la technique pour fabriquer du papier. Les Chinois sont très, très jaloux de cette technologie-là. Mais finalement, elle finit par sortir de Chine à la fois par l'exportation de papier, puis la technologie arrive jusqu'en Occident. Elle va mettre, par contre, à peu près 9-10 siècles à arriver jusqu'en Espagne et jusqu'en Italie. Et d'ailleurs, les dates alors ne correspondent pas totalement, mais l'apparition du papier est une des conditions majeures, effectivement, pour qu'on puisse faire de l'imprimerie en Occident.
Alors, on va y venir, mais pour rester quelques instants encore en Extrême-Orient, Olivier Deloignon, je voudrais vous demander de nous expliquer ce point qui m'a intrigué en vous lisant. Vous écrivez « Les lettrés chinois voient dans la reproduction mécanique un danger majeur, car la paresse guette ceux qui se contentent de lire sans transcrire. » Expliquez-nous, Olivier Deloignon.
Alors en fait, il n'y a pas que les lettrés chinois. En réalité, les lettrés européens, à l'époque de la bascule entre la copie manuscrite et la copie imprimée, auront le même type d'angoisse. Dans les pratiques anciennes de l'écriture, finalement, vous avez une sorte d'ingération, de mastication, si vous voulez, de la parole, d'imprégnation, si vous voulez, qui se fait par le geste de l'écriture. Donc bien évidemment, lorsque vous vous retrouvez avec un texte qui est reproduit immédiatement, ce geste-là disparaît, et donc vous n'avez plus qu'une lecture qui est considérée par ces lettrés-là comme plus superficielle que ce qu'elle aurait été si vous aviez eu un effort physique également pour pouvoir la produire.
Si je vous ai bien lu, Olivier Deloignon, cette inquiétude, cette angoisse était également partagée en terre d'islam, où la calligraphie étant vécue comme un art, la typographie de son côté était plutôt vécue comme un dévoiement. Il s'agit bien du même type d'angoisse ?
Alors je ne suis pas bien sûr que ce soit le même type d'angoisse, mais en terre d'islam, effectivement, l'imprimerie met énormément de temps à s'implanter. Les premiers livres en caractère arabe qui sont publiés le sont à Venise et en Occident, pas en terre d'islam. Et lorsqu'en islam on peut imprimer, en fait, sont généralement soit des communautés juives, soit des communautés chrétiennes qui ont des autorisations exceptionnelles de pouvoir imprimer leurs propres livres. Mais c'est vrai que l'islam est relativement conservatrice sur cette question de la figuration de la parole par l'écriture.
Très bien, alors revenons-en à cette histoire proprement européenne. À partir de quand les inventions autour de l'imprimerie se sont-elles développées chez nous en Europe ? Si je vous ai bien lu, Olivier Deloignon, il a fallu une sorte de pulsion mystique et spirituelle, notamment sur les bords du Rhin.
Alors vous avez effectivement donc le premier livre imprimé, Jean-Marc Châtelain parlait tout à l'heure de la réserve des livres rares de la BNF, n'est pas en caractère mobile, n'est pas imprimé en fait en Occident, il est imprimé en Extrême-Orient, en Corée très exactement, en 1377, et ce livre est conservé aujourd'hui dans la réserve des livres rares de la BNF. Par les aléas de l'histoire.
Jean-Marc Châtelain voudrait intervenir.
Pas le Jigji. Le Jigji n'est pas conservé à la réserve des livres rares, mais au département des manuscrits, avec l'ensemble des publications orientales, en réalité. Mais c'est un détail.
Mais il s'agit bien de ce livre de 1377, c'est bien ça.
Publié en Corée.
Voilà.
Imprimé en Corée.
Vous voyez que vous faites l'objet d'une audition attentive, Olivier Deloignon.
Je vois ça. Merci de cette
Alors, audition. Expliquez-nous le rôle majeur du concile de Bâle, qui, je le rappelle, s'est tenu entre 1431 et 1439. Ce concile qui veut mettre fin au grand schisme d'Occident, mettre fin à l'hérésie hussite. En quoi a-t-il été un formidable producteur d'écrits ? En quoi a-t-il ouvert un gigantesque marché, Olivier Deloignon ?
Alors vous avez au concile de Bâle, en fait, énormément d'intellectuels qui sont là, alors que ce soit des ecclésiastiques ou des laïcs, et ce sont de grands producteurs, évidemment, d'écrits. Alors à ce moment-là, pas encore d'imprimerie dans le sens dans lequel on l'entend à l'heure actuelle, mais par contre une nécessité de produire à la fois les actes de ces conciles, mais aussi de fournir des livres aux intellectuels qui sont sur place et qui ont des besoins de lecture, et bien évidemment pour eux aussi la possibilité de pouvoir éditer leur propre texte. Alors, il se trouve que Bâle, en fait, est relativement proche d'une autre ville qui, dans cette histoire, a une importance tout à fait particulière, c'est Strasbourg. Et au même moment, à Strasbourg, vous avez un citoyen allemand originaire de Mayence qui est présent dans la ville, qui a été chassé par une révolte urbaine de sa ville de Mayence, c'est Gutenberg. Mmh. Et Gutenberg, bien qu'il peine un petit peu dans les premières décennies, voire les premiers siècles après l'imprimerie, à s'imposer dans l'historiographie comme l'inventeur officiel, a été révélé un petit peu plus tard, notamment alors, par des actes d'un procès.
Si je vous ai bien lu, Olivier Deloignon, les débuts de Gutenberg ont été quasiment clandestins. Il a dû démonter certaines parties de ses presses, si j'ai bien compris.
Alors voilà, les actes du procès, en fait, font intervenir toute une série de protagonistes proches de Gutenberg qui viennent témoigner d'un art dont personne ne dit très exactement à quoi il correspond, mais on utilise sans aucun doute des livres, on utilise du plomb, on utilise une presse, oui, dont on se garde bien de montrer à quoi elle sert.
Et pourquoi donc ?
Alors, probablement pour des questions d'alchimie, comme on a pu l'envisager. Mais fort probablement parce qu'on est face à une invention et qu'on n'a aucune envie, en fait, que quelqu'un s'empare tout simplement de cette idée.
Mais quand vous dites « on », c'est qui ? Est-ce que c'est l'Église romaine, par exemple, qui s'inquiète de la remise en cause de son monopole, de l'interprétation des textes par la réforme à cette époque-là ?
Pas tout de suite,
pas tout de suite,
puisque
oui,
là on est plutôt dans les, oui, années 1430-1440. Mm-hmm. L'Église romaine, au début, sera plutôt très intéressée, en tout cas une partie des ecclésiastiques sera tout à fait intéressée et par les capacités de la presse, et en particulier le premier livre important, c'est la Bible à 42 lignes dont on parlait tout à l'heure, donc c'est bien la Bible qui est imprimée. À partir effectivement de la Réforme, vers 1517, il y a effectivement une concurrence qui se met en place, notamment sur les idées. Et vous savez aussi que la traduction de la Bible en allemand par Luther va avoir un impact tout à fait fondamental sur la manière dont on approche les textes.
Ce fut une véritable révolution, intellectuellement parlant. Et
ça a été une révolution intellectuelle, oui, mmh, absolument. Ça a été une révolution de la langue aussi, oui, puisque c'est le moment où la langue allemande commence à se structurer. On observera d'ailleurs un phénomène à peu près analogue pour la langue française, non pas sur un texte religieux, mais sur la langue vulgaire un petit peu plus tard.
Alors on va avancer, si vous le voulez bien, Olivier Deloignon, dans notre promenade dans l'histoire du livre. On va arriver sous François Ier. Je constate en vous lisant que en 1526, le Parlement de Paris a interdit de lire, de conserver chez soi, d'imprimer ou de vendre les écritures traduites en français. Expliquez-nous les enjeux de cette décision, Olivier Deloignon.
Alors les enjeux sont précisément ceux que vous évoquiez dans votre précédente question, c'est-à-dire que l'Église romaine est relativement jalouse de ses prérogatives de lecture du texte saint, en particulier en latin, et évidemment de son interprétation. Donc la traduction en français offre finalement à tout le monde la possibilité d'accéder à ces textes, avec le danger de mésinterprétation des textes, mes connaissances, enfin en tout cas, ils considèrent que c'est un danger finalement.
C'est un danger d'hérésie en quelque sorte.
Alors le risque évidemment, oui, qui pointe, c'est l'hérésie bien sûr. Mmh. Mais on a dépassé 1517 aussi, donc on est dans un moment de tension précisément sur des questions de théologie, de religion.
Alors cette interdiction fait l'objet de procès, de comparutions et dans certains cas aboutit à la peine de mort.
Oui. Alors vous avez une affaire célèbre qui a lieu le 17 octobre 1534, où effectivement vous avez l'affaire des placards, où on placarde littéralement sur la porte de la chambre du roi un placard contre la messe, qui est donc un libelle, si vous voulez, ou en tout cas un texte issu des milieux réformés, probablement genevois. Hein. Mm-hmm. Antoine Marcourt, Pierre de Vingles sont très fortement soupçonnés d'être les auteurs de l'opération. Et la réaction du roi François Ier, dont la sœur Marguerite est proche des idées réformées, jusqu'à présent était relative avec... Il faisait montre d'une certaine mansuétude.
Oui.
Là, par contre, la réaction est assez violente puisqu'il interdit purement et simplement d'imprimer en France.
Oui,
et le Parlement de Paris lui fait remarquer gentiment que finalement c'est un petit peu trop tard. Il y a trop d'imprimeries, trop de presse en fonctionnement, que c'est donc pas possible.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Olivier Deloignon, le développement de l'alchimie. On voit se développer, donc parallèlement à cette littérature, disons, de type spirituel, religieuse ou théologique, on voit se développer des tirages et des éditions autour de ce qu'on peut appeler des sciences parallèles, autour de l'alchimie. C'était l'objet d'un grand intérêt.
Alors, c'est effectivement une littérature autre, c'est-à-dire que très rapidement, l'imprimerie finit par saturer à la fois le marché des Bibles. On a des exemples où Johannes Froben, par exemple, un très grand éditeur balois, se plaint dans les années 1520 d'avoir édité une nouvelle Bible parce qu'en fait, il y en a tellement sur le marché qu'il peine à les vendre. Le modèle qui est choisi très tôt par les imprimeurs européens, c'est un modèle en fait de forte production et on amortit le prix d'un livre en imprimant un certain nombre d'exemplaires et en cherchant à les vendre. Donc très vite, lorsque certains marchés sont saturés, on va ouvrir d'autres marchés et celui effectivement des sciences et en particulier de la chimie est un marché qui peut être tout à fait porteur. Alors par contre, ces ouvrages sont très très souvent imprimés sous fausse adresse ou dans des endroits dans lesquels la justice royale, en particulier française, ne peut pas accéder et on retrouve Strasbourg, on parlait de Genève tout à l'heure, vous avez là effectivement toute une série de villes qui sont un petit peu aux marges de toutes les juridictions et dans lesquelles les imprimeurs ont plus de latitude que s'ils étaient sous le joug direct de la police royale.
Merci beaucoup Olivier Deloignon. On comprend bien en vous écoutant l'intrication entre les enjeux économiques, techniques, idéologiques, politiques, voire religieux. Je voudrais pour clore cette première partie de notre émission mentionner quelques lignes de Michel de Montaigne dont vous citez le troisième chapitre des Essais en 1588. Je cite, « La fréquentation des livres côtoie toute mon existence et m'assiste pour tout. Elle me console en la vieillesse et en la solitude. Elle me décharge du poids d'une oisiveté ennuyeuse et me défait à toute heure des compagnies qui me fâchent. Elle atténue les excès de douleur si elle n'est pas extrême et imminente. Pour me distraire d'une idée importune, il n'est que de recourir au livre. Il m'en détourne facilement et l'escamote. »
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, toujours au micro Frédéric Mounier. Nous retraçons aujourd'hui l'extraordinaire histoire du livre imprimé à partir d'un livre de grande qualité que je conseille à tous nos auditeurs qui s'intitule « D'encre et de papier », une histoire du livre imprimé coédité par les éditions de l'Imprimerie nationale et les éditions Actes Sud. Alors, nous avons traversé les premiers siècles de l'histoire de l'imprimerie avec Olivier Deloignon depuis Strasbourg. Je me tourne maintenant vers Jean-Marc Châtelain. Bonjour.
Bonjour.
À nouveau, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez travailler plus précisément sur ce que vous appelez le livre contrôlé 17e, 18e siècle. C'est ce que vous appelez l'ancien régime typographique et vous évoquez, vous précisez qu'il y a eu très très peu de changements en fait entre le 15e et le 18e siècle. Il y a eu peu d'innovations, il y a eu une certaine lenteur dans le temps du livre, Jean-Marc Châtelain. Comment expliquer ce calme ?
On peut dire que la forme du livre se fixe après la période de Gutenberg, ce qu'on appelle la période incunable, c'est-à-dire celle du 15e siècle. La forme du livre se fixe finalement dans ces aspects qu'on va connaître très durablement dans les années 1520-1530. À partir des années 1530, il y a comme une sorte de physionomie, je dirais, du livre qui reste très très semblable, il y a une très grande stabilité. Alors cette expression d'ancien régime typographique, ça n'est pas moi qui l'invente, je la reprends à l'historien du livre Roger Chartier. Et je crois qu'elle est particulièrement intéressante, enfin particulièrement pertinente par le fait qu'elle associe bien quelque chose qui est un régime du livre, effectivement, cette physionomie du livre, tout ce qui appartient à son processus de fabrication, donc son processus technique et puis son processus économique. Et puis d'autre part, cette expression d'ancien régime, pour nous, elle évoque évidemment un régime politique. Et ce qui fait sans doute l'unité de cette période qui, englobe le 16e, le 17e et le 18e siècle.
Jusqu'à la Révolution.
Jusqu'à la Révolution, et dont on pourrait dire grosso modo qu'elle s'ouvre à partir de l'époque des guerres de religion, même si certains prémices sont déjà là un petit peu avant. Ce qui donc fait l'unité de cette période, c'est ce lien entre le pouvoir, enfin entre le monde du livre en tant qu'acteur économique et le pouvoir politique.
Le pouvoir central monarchique en route vers l'absolutisme.
Exactement, le pouvoir central monarchique qui cherche effectivement à centraliser, à concentrer entre ses mains tout le monde du livre et donc à le contrôler. Donc effectivement cette partie s'intitule « Le livre contrôlé », c'est parce qu'effectivement cette obsession du contrôle est constante.
On va y venir plus précisément sur ce contrôle, mais d'abord une précision, Jean-Marc Châtelain. Qui savait lire à l'époque ? Qui étaient les lecteurs ? À la fois en quantité et en qualité, ça représentait qui ?
Alors en quantité, je n'aurais pas la témérité de fournir des chiffres. C'est évidemment, le monde des lecteurs est très difficile à saisir. Il y a évidemment tous les clercs au sens large, voilà, tous les gens qui ont fait des études universitaires. Mmh. Mais il y a aussi le monde bourgeois, des gens qui savent lire, les commerçants notamment. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle on voit se multiplier les livres de la pratique, hein, qui sont à l'usage effectivement de gens de la pratique. Il y a tous les milieux des juristes aussi. Voilà.
Ce que vous appelez les livres d'usage, c'est ça ?
Oui, voilà, oui. C'est ça, ces livres d'usage. Vous avez par exemple, mais ça dès la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, des traités qui sont à l'usage effectivement des marchands sur la manière de compter, des traités de calcul pratique, des traités
pratique,
de jardinage.
Ouais.
Voilà, vous avez des traités des livres de recettes de médecine populaire. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même un monde de lecteurs qui est loin d'être négligeable. Et puis je pense aussi qu'il y a des lecteurs seconds, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'il y a aussi, et on en a des traces jusque dans la littérature du 19e siècle, dont Jean-Yves Mollier pourrait parler mieux que moi, des traces de lectures qui se font de manière collective. Donc il y a quelqu'un qui dispose d'une compétence de lecture et qui en fait profiter.
Et qui parle à voix haute.
Voilà, qui parle à voix haute. Et c'est sans doute par là aussi que se diffusent un certain nombre de textes, des livrets populaires qui sont devenus très fréquents à partir du XVIIe siècle, de la fin du XVIe et surtout au XVIIe siècle, ces livrets qui constituent ce qu'on appelle les bibliothèques bleues, hein, voilà, ou les romans de chevalerie. Il n'y a pas que
c'était
les romans de chevalerie.
C'était l'équivalent des poches aujourd'hui, c'est ça ? C'était pas cher ? C'était pas toujours bien imprimé.
C'est ça. Alors, les livres de poche aujourd'hui sont plutôt mieux imprimés.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Mais là, effectivement, c'était fait. Oui. C'était, si j'ose dire, c'était à la typographie ce que la cuisine avec les restes est à la gastronomie.
Voilà. Mais il y avait aussi beaucoup de cuisine avec les restes qui étaient vendues dans les rues à ce moment-là.
Exactement.
C'était aussi une pratique. Voilà. Beaucoup de contrefaçons, de contrebande aussi.
Alors ça, c'est la conséquence naturelle du contrôle monarchique.
Alors, expliquez-nous ce contrôle. Pourquoi et comment ce contrôle est-il exercé ?
Alors, ce contrôle, il s'exerce pour assurer l'efficacité du pouvoir. Le pouvoir est très soucieux, effectivement, d'éviter les mouvements de sédition, qui sont tout à la fois des mouvements de sédition politique et des mouvements de sédition religieuse, étant donné que l'unité du royaume est celle aussi d'une loi, un roi, une foi.
Voilà,
voilà, donc,
c'était le cœur du système.
Exactement, à partir du moment où, ça c'est la conséquence naturelle de la réforme finalement, enfin où sont les effets de la réforme. Donc le pouvoir est soucieux de juguler tout effet de sédition et est très très inquiet de ce qu'il appelle, enfin c'est un terme qu'on voit revenir de manière constante dans les textes de réglementation, les libelles diffamatoires, c'est-à-dire tous ceux qui vont entretenir dans l'opinion des mouvements de sédition.
C'était plutôt, toute chose restant égale par ailleurs, c'était plutôt le canard enchaîné ou c'était plutôt les réseaux sociaux ? Pour nous aider à comprendre.
Alors, moi, je pense que c'était plutôt le canard enchaîné que les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Yves Mollier.
Oui, parce qu'en général, ils sont très bien écrits. Mais je profite de l'occasion pour rajouter une chose. le contrôle et évidemment la contrebande qui en est la contrepartie se conçoivent à une époque où il y a un adage humaniste qui court « ut libri sint liberi », là où il y a des livres sont les hommes libres. Et les pouvoirs n'aiment pas les hommes libres. Par conséquent, ils se méfient également des livres.
Donc c'est le fond de cette méfiance.
Voilà, même s'il y a effectivement des livres qui enchaînent quand même. Mm-hmm. Voilà, tous alors, n'ont pas une puissance de libération. Ça,
Vous lisant Jean-Marc Châtelain, j'apprends qu'en 1686, il y a un numerus clausus qui est imposé à Paris pour l'existence de 36 ateliers d'imprimerie, d'où le développement, écrivez-vous, d'une économie de la clandestinité.
Voilà, alors ce numerus clausus, effectivement, c'est un vieux rêve du pouvoir. Hein. Dès la première moitié du XVIIe siècle, le chancelier Séguier imagine d'imposer un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on va limiter arbitrairement le nombre des imprimeries. Et c'est ensuite la législation, enfin tout l'effort législatif de Colbert qui se réalise juste après la mort de Colbert, donc en 1686, qui vient faire rentrer dans la réglementation ce numerus clausus. L'idée est double, c'est à la fois effectivement d'avoir peu d'imprimeurs, de sorte qu'ils sont plus faciles à contrôler.
Oui.
Il y avait même eu un projet du chancelier Séguier qui imaginait que les imprimeurs ne pourraient exercer que dans des grandes rues. Voilà. L'idée, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait des arrière-cours par lesquels on puisse s'échapper.
Si je vous ai bien lu, c'était rue Saint-Jacques, le pont Saint-Michel, le pont Neuf.
Ça, c'était tout le quartier, la rue Saint-Jacques, en tout cas le quartier traditionnel de l'imprimerie parisienne
à Paris, oui.
au XVIe siècle, c'est-à-dire tout le quartier de l'université. Et puis, effectivement, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, de nouvelles géographies du livre parisien se mettent en place. Non pas que le quartier Saint-Jacques perde de son importance, mais il n'est plus aussi exclusif. Voilà. Et notamment, il y a tous les libelles qui se vendent sur le Pont Neuf, et puis il y a aussi tout le quartier de la cité qui devient très, très important autour du palais de justice.
Alors, il y a des personnalités qui émergent. Vous décrivez dans votre livre, Jean-Marc Châtelain, la personnalité de Sébastien Cramoisy, qui fut un grand libraire parisien.
Cramoisy, c'est un très grand libraire parisien. C'est le roi de la librairie au XVIIe siècle en France. Alors, quand on dit grand libraire parisien, ça veut dire le grand libraire en France.
Parce Est-ce que ça veut dire éditeur aussi?
Oui, voilà. Effectivement, voilà. Vous avez raison. Il faut préciser ce qu'on appelle libraire dans les termes de l'Ancien Régime, effectivement. Ce qu'on met sous le mot de libraire, c'est souvent un libraire et un éditeur. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il édite des livres, il les commercialise. Voilà. Donc, le terme de libraire à cette époque-là désigne ce qu'aujourd'hui nous appellerions un éditeur.
Mais donc Sébastien Cramoisy est homologué par le pouvoir royal.
Il est homologué par le pouvoir royal et c'est un homme qui se construit une position de pouvoir sans pareil. C'est le roi de la rue Saint-Jacques, comme on le dit à l'époque. Et notamment parce qu'il dispose de l'appui des jésuites. Et il dispose aussi de l'appui du roi. Et c'est très important à cette époque-là, effectivement, d'avoir de tels appuis institutionnels qui lui permettent de résoudre aisément le problème auquel tous les éditeurs, donc libraires de cette époque, sont confrontés, celui de la mise de fonds, de l'investissement pour lancer des projets éditoriaux. Et donc, puisque effectivement, il n'y a pas un marché non plus qui est aussi homogène qu'il le sera bien plus tard, grâce au chemin de fer, grâce aux communications.
On y viendra.
Donc, effectivement, il y a quelque chose qui c'est plus compliqué, c'est plus aléatoire. Et cette mise de fonds suppose d'arriver à réunir des capitaux. Et donc, l'appui du pouvoir, la commande du pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir politique ou du pouvoir ecclésiastique, représenté soit par l'Église, soit par les ordres religieux, constitue une forme de subventionnement, finalement.
C'est ça. Alors, il y a le livre qui se développe, mais il y a aussi les gazettes et les journaux, le Mercure Galant en 1672. Comment est-ce que toute cette nouvelle industrie, cette nouvelle production s'est-elle développée, Jean-Marc Châtelain?
C'est une production qui remonte à la fin du XVIe siècle, où on voit petit à petit de plus en plus, enfin on a même des attestations plus anciennes encore, mais petit à petit on voit une sorte d'appétit de nouvelles, un appétit d'actualité qui se développe. Et notamment qui se développe déjà auprès des marchands. Voilà, parce qu'effectivement, ce sont les grands marchands qui font notamment du commerce international, qui sont toujours soucieux d'avoir des informations neuves, des informations fraîches. Alors, il existait des formes de publication d'actualité, mais sans périodicité. Mmh. Et petit à petit, à la fin du XVIe siècle, au tout début du XVIIe siècle, voilà, les choses se structurent pour arriver à une périodicité. Il y a quelques premières gazettes, notamment à Strasbourg, vers 1605. Et puis ensuite, dans divers pays d'Europe. Alors évidemment, la situation aussi, le contexte géopolitique de l'Europe du XVIIe siècle le favorise, parce que nous sommes dans cette période qui est celle de la guerre de 30 ans, nous entrons dans cette période de la guerre de 30 ans où il y a beaucoup d'événements et qui ont des conséquences directes, effectivement, pour...
Donc on veut savoir, on veut être informé.
Il y a un besoin de savoir.
Voilà. Et comment le pouvoir peut-il contrôler ces gazettes, justement, et ces nouveaux journaux ?
Alors, il le contrôlera en France en confiant le soin de la première gazette française, la gazette de Théophraste Renaudot, à cet homme qui est Théophraste Renaudot, qui est un nouveau venu dans qui est extérieur au monde du livre. Renaudot, c'est un médecin. Et d'ailleurs, l'entreprise...
Qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde du livre ?
Il vient faire des affaires.
Oui, il vient faire des affaires.
Il vient faire des affaires, mais simplement pour obtenir...
C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. Oui. Mais pour obtenir son homologation, parce que évidemment, il n'est pas bien vu des gens qui sont installés. Il faut songer à cet esprit de corporation qui est celui des métiers à cette époque-là. Tout nouveau venu est mal vu. Et donc, Théophraste Renaudot est en but à l'hostilité des imprimeurs et libraires de la corporation des métiers du livre. Et il gagne la partie en se faisant finalement, en gagnant l'appui du pouvoir. Mais la rançon, c'est qu'effectivement, il devient le diffuseur des nouvelles officielles.
Mais on a le sentiment en même temps que cette tutelle du pouvoir sur tout ce qui est écrit, imprimé, publié et diffusé s'allège à travers le système de ce que vous appelez la permission tacite.
Là non plus, ça n'est pas moi qui appelle ça la permission tacite. Ça, c'est effectivement une invention du début du XVIIIe siècle, puisque, en effet, en vertu de la législation qui s'est progressivement mise en place à partir des édits royaux de l'époque des guerres de religion, les livres ne peuvent être publiés qu'avec une permission du pouvoir, d'où un système de censeurs qui sont
d'imprimature
pour,
et de nihil obstat, comme on disait autrefois.
Exactement, comme on le dira on le disait dans le milieu ecclésiastique, il y avait quelque chose de comparable pour ce qui était du pouvoir civil. Et donc, il fallait obtenir la permission du pouvoir qui était accordée après une lecture faite par des censeurs.
Le système était assoupli ?
Alors, le système s'est assoupli, mais le pouvoir, en même temps, puisqu'il venait de mettre complètement en place ce système des permissions, hésitait à le pervertir au moment même il le mettait. D'où le système d'une permission tacite, c'est-à-dire que on autorisait mais on ne le disait pas. Qui ne dit mot consent.
Voilà.
Simplement, ça permettait, si jamais il y avait ensuite un procès contre le livre qui avait été ainsi permis, ça permettait au pouvoir d'être complètement dégagé de toute responsabilité.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui, les racines de l'histoire du livre autour d'un livre passionnant et aussi magnifique intitulé « D'encre et de papier, une histoire du livre imprimé » publié conjointement aux éditions de l'Imprimerie nationale, aux éditions Actes Sud. Et nous sommes ici dans le studio avec les auteurs, trois auteurs. Nous avons commencé par notre ami Olivier Deloignon qui nous a retracé les tout débuts de l'histoire du livre en Extrême-Orient. Nous venons voir avec Jean-Marc Châtelain les 16e et 17e, 18e siècles et nous allons arriver avec Jean-Yves Mollier qui est avec nous, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin. Nous allons aborder la période de contemporaine, donc 19e, 21e siècle. Et je voudrais introduire votre propos, Jean-Yves Mollier, avec un extrait sonore d'un film qui est aujourd'hui sur nos écrans et que je vous encourage vivement d'aller voir. C'est le film de Xavier Giannoli, Les Illusions Perdues. Nous verrons dans quelques instants pour quelles raisons ce film concerne cette histoire du livre imprimé dont nous retraçons les principaux passages ici dans cette édition des Racines du Présent.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi, mon métier ?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez ?
Tous ces magouilles sont du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça.
Tout est pourri partout, tu trouves pas ? Il faut se battre pour faire des belles choses.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Il nous a trahis, Fumier. Il faut l'abattre. Il faut taper là où ça fait mal.
Il est trop tard pour avoir peur.
Voilà, c'était le climat éditorial du 19e siècle, vu par le réalisateur Xavier Giannoli, qui a porté à l'écran l'œuvre d'Honoré de Balzac, Illusion perdue, que je vous encourage vivement à relire. Je vous encourage vivement à voir ce film aussi. Alors Jean-Yves Mollier, vous avez été frappé dans ce film par la personnalité incarnée par Gérard Depardieu, qui incarne un éditeur, un alphabète.
Racontez-nous. Absolument. Alors Balzac, qui est un homme du livre, qui a exercé tous les métiers du livre, dresse là un portrait qu'on pourrait croire très contemporain. D'une certaine manière, le portrait de ces journalistes, c'est le portrait du propriétaire de Facebook aujourd'hui.
Carrément.
Rien n'a changé, ce sont les mêmes méthodes. Il s'agit d'enrichir l'actionnaire.
Oui, c'est ce qui est dit dans le film.
C'est ce qui est dit dans le film, c'est ce qui est dit dans le roman de Balzac, oui. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Alors oui, je trouve que la personnalité de Gérard Depardieu, qui incarne le libraire-éditeur Doria, en fait le double de Camille l'avocat, un des plus grands éditeurs des années 1830-1840, est admirable. Parce que, y compris dans son épaisseur physique, il joue ce rôle d'un éditeur qui est une sorte d'épicier. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le contenu des livres qui l'intéresse que le fait qu'il puisse les vendre. Et donc, lorsque le malheureux Lucien de Rubempré lui propose d'éditer Les Marguerites, un recueil de sonnets, évidemment, il le refuse. Mais une fois que Lucien se sera vengé dans le journal, et bien évidemment, Doria viendra mendier et manger dans sa main.
Alors, il faut rappeler aussi que la première partie du roman de Balzac retrace très précisément à Angoulême la vie et l'origine et l'histoire d'une imprimerie, ses liens avec le pouvoir politique, avec le pouvoir institutionnel. Racontez-nous, Jean-Yves Mollier.
D'abord, Angoulême, c'est une grande ville de fabrication du papier. Mmh. Et là encore, on retrouve le Balzac qui a été imprimeur, graveur, éditeur, libraire de 1826 à 1828 et qui a fait faillite, qui a parcouru une partie de la province pour essayer d'obtenir les meilleurs papiers, au meilleur prix bien entendu. C'est ce Balzac qui met en scène dans ce roman extraordinaire, Illusion perdue, en trois parties, qui met en scène au fond tous les métiers du livre de l'époque. À Angoulême, on est dans l'imprimerie des Séchard, une imprimerie à l'ancienne où l'hiver, comme on n'a plus beaucoup d'argent, on envoie le prote, le chef d'atelier, vendre dans la campagne les almanachs que l'on a imprimés.
Les fameux almanachs.
Comme au XVIIe siècle, dont nous parlait il y a un instant Jean-Marc Châtelain.
Et puis cette imprimerie est concurrencée
par une énorme imprimerie ultra moderne et qui laisse vivre la petite imprimerie parce qu'elle entend bien s'emparer des innovations technologiques qu'elle est en train de mettre au point.
Alors, ces innovations technologiques, vous écrivez, Jean-Yves Mollier, que ces innovations technologiques, l'apparition de la vapeur, la mécanisation et puis d'autres inventions propres à l'imprimerie que vous allez nous décrire ont véritablement révolutionné la production éditoriale au XIXe siècle.
Oui, véritablement. D'abord, je dis que j'ai intitulé cette partie « Le livre apprivoisé ». Mmh. C'est-à-dire qu'on change d'échelle. Bien sûr, comme l'a dit Jean-Marc Châtelain, il y avait des lecteurs au XVIIe, au XVIIIe siècle. Mais tout d'un coup, on va assister à la naissance de ce lecteur qui s'appelle Tout le monde, je cite là Pierre Larousse.
Oui.
Globalement, au moment où Jules Ferry rend l'école obligatoire, d'abord gratuite puis obligatoire et laïque, quasiment tout le monde sait lire, sauf un peu moins les femmes et un peu moins les paysans.
Et donc, ça s'est fait très rapidement.
Ça s'est fait très rapidement. Jules Ferry, ça n'est que le rattrapage.
Oui.
C'est-à-dire, c'est les 10 ou 15% restants qui vont être scolarisés. Mais depuis la première loi Guizot de 1833, oui, qui a imposé une école dans chaque commune de 500 habitants.
Dès 1833.
Dès 1833. Et il a fait mieux. Il a fait imposer par les préfets les dépenses d'écolage. Autrement dit, quand un maire récalcitrant ne voulait pas payer un instituteur et faire construire une école ou ouvrir une salle d'école, eh bien, le préfet l'imposait dans la dépense.
Et ensuite, il y a eu Victor Duruy.
Alors, il y a eu, entre-temps, même il y a eu le comte de Falloux, qui a mauvaise, oui, presse, mais lui avait...
Qui a favorisé l'enseignement dit libre à l'époque.
Absolument, mais oui, en même temps, il avait étendu aux filles la loi Guizot qui ne s'appliquait qu'aux garçons. Mm-hmm. Donc là, c'est plutôt le Falloux progressiste de 1850. Même si, bien entendu, les institutrices, pour lui, devaient être des religieuses plutôt que des laïcs.
Évidemment, habillées comme des religieuses.
Habillées comme des religieuses. Alors, Duruy, bien sûr, mm-hmm, 1867, c'est l'unification de ces deux régimes. On peut considérer, donc, à la veille des lois Ferry, la France entière sait lire.
Donc là, nous assistons à l'apparition d'un public massif. Mais en même temps, écrivez-vous, Jean-Yves Mollier, depuis la Révolution jusqu'en 1870, la liberté d'expression n'a quasiment pas existé en France.
Non, on retrouve le régime des censeurs de, voilà, l'ancien régime, sauf qu'il n'y a plus de censeurs officiels, mais Napoléon, en 1810, a imposé la naissance d'inspecteurs et de commissaires de la librairie, ce que j'appelle une police de l'esprit.
C'est ça.
On surveille les frontières, donc l'entrée de livres clandestins, on surveille les ports, mais à l'intérieur des grandes villes, là où il y a des imprimeurs, eh bien, les inspecteurs viennent dans les imprimeries pour vérifier que l'imprimeur, avant de mettre un travail en chantier, est allé à la préfecture remplir un registre pour déclarer son intention d'imprimer tel livre de monsieur un tel pour le compte de tel éditeur et à tant d'exemplaires. C'est un système extrêmement, voilà, coercitif.
Mais en fait, on prend conscience en vous écoutant et en vous lisant, Jean-Yves Mollier, que notre liberté d'expression est un exercice, une conquête très très récente.
Oui, et les Français et les Françaises qui nous écoutent peuvent retrouver cette loi sur les murs de nos villes, sauf que cette loi aujourd'hui, elle apparaît comme liberticide. Défense d'afficher, oui, loi du 29 juillet 1881. Or, la loi du 29 juillet 1881 autorisait l'affichage partout où il n'était pas expressément défendu, mais surtout, désormais, l'imprimerie, la librairie et le colportage étaient déclarés libres en France.
Voilà, mais il faut se souvenir que du 16e jusqu'à la fin du 19e, écrivez-vous, Jean-Yves Mollier, le livre ne fut que rarement laissé à la seule discrétion de ceux qui le rédigeaient, le fabriquaient et le diffusaient. C'est-à-dire le livre était sous tutelle depuis le 16e jusqu'à la fin du 19e.
Et on le constate dans les périodes de révolution où la liberté ne dure jamais longtemps. 1789, liberté absolue, mais, oui, dès 1792, la porte se referme.
Ouais, ouais.
1830, mais ça dure 2 ans. 1832, le pouvoir redevient répressif. On interdit même le nom de République. 1848, ça dure quelques mois.
Ça dure quelques mois, de février à juin.
Et la Commune de Paris, ça dure quelques semaines.
Ça a duré 72 jours.
Voilà.
Voilà. Mais en même temps, il y a eu cette explosion du public. Et vous citez des chiffres très, 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 très impressionnants sur, par exemple, l'alphabet et le premier livre de lecture signé de Louis Hachette et Ambroise Rendu, des centaines de milliers d'exemplaires déjà.
Oui, alors dans ce livre, nous avons essayé aussi de montrer la diversité des livres.
Oui.
Le livre, ce n'est pas simplement le roman, le recueil de poésie ou les pièces de théâtre ou les essais. On parlait tout à l'heure de Michel de Montaigne. Bien sûr qu'une partie du livre, c'est ça. Mais la grosse production de livres, ce sont les livres scolaires, les livres religieux, les livres de droit, les livres de médecine et les livres pratiques. Alors, le livre scolaire, c'est un massif considérable. Louis Hachette, oui, en 1832, conçoit et met en vente au service de l'État qui va en acheter 1 million d'exemplaires, l'alphabet et premier livre de lecture. C'est un livre tout petit, tout gris, il n'est pas beau d'aspect, mais c'est avec ce livre que des générations de Français, de garçons à l'époque, ont appris à lire, parce que 1 million de livres, 1 million de volumes achetés par l'État pour être distribués aux enfants pauvres. On les appelle indigents à l'époque.
Mmh, mmh.
Mais il y a encore des centaines de milliers d'exemplaires achetés par les familles qui en ont les moyens. Car la loi Guizot, elle accordait la gratuité pour les enfants indigents, mais évidemment, les autres payaient l'école.
Alors, j'ai cité tout à l'heure Michel de Montaigne. Jean-Marc Châtelain, une précision. Connaît-on les chiffres de diffusion des livres de Montaigne à l'époque? il y avait combien de lecteurs ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ça ? Parce que je voudrais mettre ça en perspective avec les chiffres donnés pour le 19e siècle. Et c'est quelques milliers, c'est quelques dizaines de milliers ?
Par édition, c'est très difficile.
Oui, j'imagine.
Je ne serais pas trop
j'imagine
en mesure, je ne voudrais pas non plus avancer des chiffres. C'est-à-dire que, de toute façon, les chiffres de diffusion sous l'Ancien Régime, on les connaît généralement, enfin les chiffres de tirage, on les connaît généralement quand on dispose d'un document d'archive, voilà, mais on n'a pas, c'est assez
donc
rare.
On peut juste évaluer.
Globalement, c'est les tirages, en règle générale, varie entre 500 et 2000 exemplaires.
C'est ça.
Voilà. Donc on est quand même, c'est quelques centaines, quoi. Voilà. On n'est pas du tout dans les chiffres du 19e siècle, de Doria l'avocat, de Pankouk à la fin du 18e siècle.
Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs de sciences humaines nous disent que leurs diffusions sont de cet ordre-là, quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires.
Oui, alors,
c'est autre chose.
La différence, voilà, sans doute, c'est que le livre avait une durée plus longue, quand même. Voilà. Alors, donc, les tirages n'étaient pas très importants, mais c'est ce qui explique aussi qu'il y avait beaucoup de rééditions. Voilà. Parce que, également, il fallait aller vite dans le processus d'impression, parce qu'il ne fallait pas immobiliser trop longtemps les caractères. Voilà. Donc,
alors, revenons à ces tirages extraordinaires du 19e siècle, Jean-Yves Mollier. On peut imaginer que c'est parce que la technique les a permis que le pouvoir a pu produire ces livres. Quelles ont été les innovations technologiques de l'époque ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, le papier coûte de moins en moins cher.
Pourquoi donc ?
Sous l'Ancien Régime, le papier représente 50 à 60% du prix d'un livre. Les techniques de fabrication du papier, notamment avec les machines à fabriquer le papier en continu, avec le fait qu'on passe du chiffon à la pulpe des arbres, ça réduit considérablement le coût. Donc déjà, c'est la première innovation. Deuxième innovation, c'est le fait qu'effectivement, on va introduire la vapeur dans les imprimeries. Et donc, d'une certaine manière, les deux personnages anciens que Balzac avait mis en scène, le singe, le compositeur qui prend les lettres en plomb dans le métier,
et l'ours,
et puis l'ours, celui qui faisait tourner la presse, c'est terminé pour l'ours. Le singe, il reste là, mais l'ours, on n'en a plus besoin.
C'est la machine qui le fait.
C'est la machine qui le fait.
Et qui le fait beaucoup plus rapidement,
bien
avec des gains de productivité.
Et puis après la vapeur, il y aura l'électricité, le pétrole, enfin toutes les sources d'énergie qui vont se développer. Vous y ajoutez l'apparition de la rotative, autour de 1850, mais surtout de 1860. D'autres innovations au niveau de l'illustration, la lithographie dès la fin du 18e siècle, mais surtout au 19e, et puis la chromolithographie ultérieurement. Ça veut dire qu'au fond...
La chromolithographie, c'est quoi ?
C'est la lithographie en couleur.
Oui.
On passe du noir et blanc à la couleur.
Ah oui.
Ça veut dire tout simplement qu'entre 1800 et 1900, le coût de fabrication d'un livre a été divisé par 15 ou 20.
À ce point.
À ce point. Ce qui explique qu'au fond, lorsque Michel Lévy, Louis Hachette et quelques autres passent au livre à 1 franc, un franc de l'époque, c'est 5 euros d'aujourd'hui.
Oui.
Ils ont toutes les possibilités technologiques de le faire en augmentant les tirages. Et là, le tirage initial passe à 6600 exemplaires avec des rééditions.
Le tirage initial.
Je vais donner quelques exemples.
Allez-y.
On est dans l'année du bicentenaire de Flaubert. Madame Bovary est parue en 1857. 20 000 exemplaires vendus. Tout simplement parce que Madame Bovary avait été placée dans la collection Michel Lévy à 1 franc. Collection ancêtre du livre de poche, il y avait 2 tomes, donc pour 2 francs, pour 10 euros d'aujourd'hui, on avait le roman en intégralité.
Donc c'était vraiment la culture populaire à ce moment-là.
C'était la culture populaire, et je vais sauter 50 ans plus tard.
Allez-y.
Pierre Loti, entre 1906 et 1919, va vendre presque 500 000 exemplaires de Pêcheurs d'Islande, parce que cette fois, on est passé à des capacités industrielles, parce que tout simplement, le livre est devenu une industrie culturelle dans les années 1880, en France, en Grande-Bretagne, mais également aux États-Unis.
Alors, puisque vous parlez d'industrie, Jean-Yves Mollier, comment s'est développé simultanément, là, on vient d'évoquer les techniques de production, mais comment ont évolué les techniques de diffusion ? Qu'est devenue la librairie au XIXe siècle ?
Alors, d'abord, il faut dire que les librairies, telles qu'on les connaît aujourd'hui, au rez-de-chaussée, donc au niveau de la rue, avec des vitrines en verre, bah, ça n'existait pas. C'est une invention du XIXe siècle.
Oui.
C'est en effet au XIXe siècle que le verre va être fabriquée industriellement, que les vitrines qui nous viennent d'Angleterre vont être multipliées en France, et que donc les librairies qui étaient souvent au premier ou au deuxième étage, donc il fallait en connaître l'existence et il fallait avoir envie d'y aller, vont devenir quelque chose que l'on peut voir de la rue. Ça, c'est la première dimension. La seconde, c'est que les librairies vont s'ouvrir dans les villes moyennes et dans les petites villes au fur et à mesure que le chemin de fer en réseau, à partir, en étoile à partir de Paris, va en quelque sorte inséminer toute la France.
D'où la fameuse bibliothèque des chemins de fer.
Alors, deux choses en même temps. C'est-à-dire que Louis Hachette, pour son propre profit, a inventé les bibliothèques de gare à la Gare du Nord en mars 1853.
C'est là que ça a commencé.
Mars 1853, Gare du Nord. Il y en aura un millier en 1900. Donc, dans toutes les villes, dans toutes les villes où le chemin de fer arrive, il y a une bibliothèque de gare. Et parallèlement...
Bibliothèque ou librairie, c'était à vendre ou à prêter ?
Alors, il s'agit bien de librairie où on vend des livres. Mais Louis Hachette, qui était un ancien élève de l'école normale supérieure, considérait qu'il éduquait la population et donc il avait donné ce nom qui est resté jusqu'à la guerre de 14 de bibliothèque de gare. Il s'agit bien de librairie. Mais surtout, elle n'était pas concurrente des librairies de centre-ville. Partout où une librairie de gare s'est installée, on a vu apparaître en centre-ville une nouvelle librairie. Pour résumer en quelques chiffres, on passe de environ 3000 librairies vers 1850 à un maximum de 8500 à 9000 librairies en France en 1890. Vous y ajoutez un millier de kiosques de gare, on est pratiquement avec un réseau de 10 000 librairies dans une France qui a à peine 40 millions d'habitants.
Oui, c'est absolument considérable.
Par comparaison, 3500 librairies aujourd'hui dans une France de 67 millions d'habitants.
Donc on a perdu un nombre considérable de librairies.
Ah oui, entre 1900 et 1950, on en a perdu beaucoup. On en a reperdu entre 1950 et 1980. Et là, on est plutôt dans une phase d'ouverture.
Il semblerait qu'il y ait un nouvel engouement.
Absolument, la pandémie aura eu cet effet, évidemment, alors qu'on peut considérer comme bénéfique, c'est qu'il aura permis de prendre conscience qu'au fond, le pain de l'esprit, donc le livre, est aussi indispensable que le pain
et
du boulanger.
Et que les librairies sont un commerce essentiel. Alors, vous nous ouvrez la porte, Jean-Yves Molly, on va parler de la période contemporaine. Je voudrais avoir votre avis à tous les deux, et peut-être Olivier Deloignon, s'il est encore avec nous, je ne sais pas. Vous qui êtes imprégné de l'histoire, des techniques et de l'histoire, on vous a entendu, de l'édition, de la librairie. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution ? Alors, on parle beaucoup du livre numérique, il semblerait que les liseuses stagnent. Certains s'inquiètent d'une perte de la lecture. Pourriez-vous nous replacer dans la longue durée de l'histoire le point d'évolution où nous sommes aujourd'hui en matière d'édition, d'imprimerie et de librairie ?
D'abord, il faut rappeler à nos auditeurs que le livre a connu une grande diversité de supports depuis 5000 ans qu'il existe.
Depuis toujours, oui.
Des stèles en pierre dont parlait Olivier Deloignon. On a connu le livre en tablette d'argile en Irak d'aujourd'hui. On a connu le livre sur des panneaux de bois. On l'a connu sur des étoffes. On l'a connu sur des plaques métalliques. Mmh. Avant, au fond, qu'il ne se fixe sous la forme d'un codex, c'est-à-dire des cahiers collés ou reliés entre eux. Au fond... Ouais. Si on veut simplifier, il y a eu trois grands supports. Il y a eu le rouleau de papyrus et de parchemin, puis le codex, d'abord en parchemin et ensuite en papier, et puis nous avons vu apparaître depuis 20 ans l'écran plat. Mais il y aura d'autres supports dans l'avenir. Autrement dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est que le livre continue à exister. On dit parfois,
sous quelque forme que ce soit.
Sous quelque forme que ce soit. Quand on dit que les jeunes lisent moins, c'est une stupidité, puisqu'ils n'ont jamais autant lu qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on lit sur le smartphone. Mais on ne lit pas de la même manière et on ne lit pas les mêmes textes. On ne lit pas, en général, un roman entier sur un smartphone.
C'est dommage, non ?
Oui, mais il existe, alors, cette fois-ci, des mangas.
Oui.
Au Japon, on a vu apparaître un genre littéraire nouveau, les Keisai Shusetsu. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de mangas qui ont été conçus sur smartphone, diffusés sur smartphone et lus sur smartphone.
Donc à vos yeux, il s'agit là d'une forme d'encouragement à la lecture, une lecture d'un autre type.
Absolument.
D'accord. Jean-Marc Châtelain, est-ce que vous partagez l'optimisme de votre collègue ?
Je partage tout à fait ce que dit Jean-Yves Mollier quand il dit qu'effectivement la diversification des supports est relative aussi à une diversification des usages. C'est-à-dire qu'effectivement on pourrait dire que le codex a plus ou moins fait disparaître le rouleau. En revanche, l'écran plat ne fait pas du tout disparaître le codex. Et nous-mêmes d'ailleurs, dans nos usages du livre, nous connaissons cette diversité. C'est-à-dire que nous recourons comme chercheur, comme spécialiste, mmh. nous recourons très souvent à l'écran plat pour aller chercher une information précise dans un livre. En revanche, nous continuons, pour la plupart d'entre nous, à lire un roman ou à lire de la poésie dans des recueils sous forme papier. Je crois d'ailleurs que de ce point de vue-là, la matérialité même de la page a aussi des effets de lecture que l'écran plat ne présente pas. Voilà, donc.
Alors, on peut peut-être souligner à cette occasion-là, puisque je rappelle Jean-Marc... Oui, Olivier Deloignon, allez-y.
Oui,
vous avez raison de frapper à la porte.
J'ai écouté mes deux collègues.
Quel est votre point de vue là-dessus?
Avec beaucoup d'appétit. En fait, j'abonde tout à fait dans ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, dans la manière dont on a pensé ce livre. On l'a pensé aussi dans sa matérialité, y compris si vous enlevez la jaquette, vous pouvez voir la reliure. Et pour moi, en fait, c'est simplement un média nouveau qui vient s'insérer en fait dans un dispositif, mais très clairement la figure du liseur ou de la liseuse qui apparaît au XVIIe siècle, donc ce personnage qui s'isole dans une bulle sensorielle pour se concentrer complètement sur sa lecture et quelque chose qui ne disparaîtra pas de sitôt. Et l'objet livre aujourd'hui en papier est effectivement le meilleur moyen d'opérer ce type de lecture-là.
Ben écoutez, un grand merci pour cet optimisme partagé par vous trois auteurs. Peut-être une précision, Jean-Marc Châtelain, vous êtes conservateur des bibliothèques et vous dirigez la réserve des livres rares à la Bibliothèque nationale de France. Il faut souligner l'extraordinaire effort fait par la BNF en matière de numérisation, avec notamment l'accès à Gallica, qui est une sorte de BNF à domicile où nous pouvons lire des milliers et des milliers et des milliers de sources, de manuscrits, de livres, etc.
Je suis très très content de vous l'entendre dire. Effectivement, je crois que nous sommes nombreux à utiliser quotidiennement Gallica, qui est une bibliothèque numérique absolument extraordinaire qui ne remplace pas la bibliothèque physique, la Bibliothèque nationale de France, mais qui en est le prolongement, l'extension.
Le prolongement gratuit,
très
accessible. Et je crois qu'il faut vraiment insister pour dire que nous avons, nous tous, accès à des trésors absolus.
Je ne peux
du jour et de la nuit.
Qu'engager tous les auditeurs, effectivement, à aller, à butiner sur Gallica, qui est à la fois un instrument de recherche, mais également un instrument d'entretien de la curiosité.
Écoutez, nous arrivons au terme de cette passionnante conversation. Je voudrais renouveler mes remerciements à nos trois invités, Jean-Yves Mollier et Olivier Deloignon, qui a eu la patience de rester avec nous au téléphone depuis Strasbourg. Un grand merci. Et puis Jean-Marc Châtelain, je rappelle le titre de votre ouvrage collectif « D'encre et de papier, une histoire du livre imprimé ». C'est publié conjointement par les éditions de l'Imprimerie nationale et Actes Sud. C'est à la fois beau et intelligent. L'objet a été magnifiquement conçu. Son prix est 89 €. Je le dis tout de go, c'est un beau cadeau de Noël. Mais je pense que si vous avez autour de vous des passionnés du livre d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas. Ce cadeau fera leur bonheur. Un grand merci à vous tous. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF et vous pouvez évidemment réécouter cette émission en balado-diffusion, comme on dit en bon français, ou en podcast. Vous pouvez la réécouter un peu comme vous irez sur le site de Gallica de la Bibliothèque nationale de France à toute heure du jour et de la nuit. Avis aux insomniaques. Merci à vous tous pour votre fidélité.